Média Res, l'émission média du troisième lieu, tous les lundis de 17h à 18h. Et ça commence maintenant.
Bonjour à tous, c'est le retour de votre émission média, l'émission média du troisième lieu. Média reste tous les lundis de à peu près 17h jusqu'à 18h. On va parler médias, on va parler télé, on va parler radio, on va parler réseaux sociaux. Comme toutes les semaines, vous en avez l'habitude. À côté de moi, l'infatigable, l'inexorable, Gir. Bonjour Gir.
L'inoxydable, s'il te plaît.
Inoxydable.
C'est bien moi, Gir. Salut à tous.
Est-ce que tu es prêt à parler médias?
Je suis prêt comme never. Parler médias, réseaux sociaux, in media res, c'est dans le thème. Magnifique.
Bravo. Il y a Florent qui fait son retour. Salut Florent.
Salut.
Est-ce que tu es prêt pour parler médias aussi?
Je suis prêt pour parler médias, réseaux sociaux, tout ce qui tourne autour.
Autour de cette planète, de la blogosphère.
Média. Exactement.
Et Guillaume aussi qui est avec nous. Salut Guillaume.
Oui, bonjour.
Qui a l'air blasé.
Je suis extrêmement chiffon.
Ils ont tout cassé à son studio.
Voilà. On a tout cassé mon studio, donc je suis un peu chiffon, je t'avoue, mon cher président.
Il utilise l'expression chiffon.
Oui. Pour dire j'aurais pu dire chafouin.
J'allais dire chafouin, justement. Et ça ne t'empêchera pas de parler médias.
Non, bien sûr que non. J'avais étant donné, voilà.
Ta passion pour les médias. tu veux que je finisse toutes tes phrases dans l'émission, ça risque d'être pénible.
Oui, s'il te
plaît. Alors, au programme de l'émission, il y aura le top flop audience de la semaine. Il y aura les trois infos médias de la semaine. Le on s'en fout, on s'en fout pas. Je donne des infos, vous dites si on s'en fout ou on s'en fout pas. Il y aura l'actualité qui a remplacé l'hashtag de l'actu pour la deuxième semaine. Oh. Donc l'actu vue par Twitter. Et on finira avec le débat. Enfin, le débat. Comme dit Guillaume, la discussion un peu animée de la semaine sur les fake news et les théories complotistes qui pullulent sur Internet. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher un peu tout ça et protéger nos chères têtes blondes. Voilà, on continue dans les expressions à garde dans cette émission.
Mais c'est ça qu'on aime.
Voilà, mais tout de suite, top flop audience de la semaine. Est-ce que quelqu'un peut me faire un jingle vocal? Guillaume, forcément.
Le top flop audience de la semaine. Le top et le flop.
Oh, le niveau de jinglerie.
À la télé. Oh,
le niveau de jinglerie est trop élevé.
Il est fort.
Je tremble.
On l'appelle Jingleman. Alors, les tops de la semaine. Mardi soir, France 3 prenait la tête des audiences avec lancement de la saison 3 de la série La Stagiaire avec Michel Bernier. Le premier épisode a rassemblé 4,3 millions de téléspectateurs. Ça n'a pas touché tous les publics puisque seuls 6% des ménagères de moins de 50 ans étaient devant France 3 mardi soir. Donc on était plus sur du minimum 60 ans devant France 3, ce qui est à dire plutôt habituel. Une fois n'est pas coutume, France 3 a été leader 2 jours de suite et en plus avec du foot. Mercredi soir, la chaîne publique diffusait le quart de finale de Coupe de France PSG OM remporté 3-0 par le Paris Saint-Germain. Une véritable démonstration de football suivie par 4 122 000 téléspectateurs. Jeudi, 3 chaînes de la TNT ont réussi à attirer plus d'un million de téléspectateurs avec 3 films vus et revus qui plus est. On reste dans les belles expressions, disons. W9 attire 1 700 000 fans de bobsleigh avec Rasta Rocket.
Ah,
TMC classique. Rassemble 1 136 000 téléspectateurs avec le film Les Trois Frères.
Ah, que j'avais annoncé. Que oui. J'avais annoncé dans mon jeu défi du jeudi dernier.
Oui, c'est vrai. Fougère.
Magnifique.
Et C8 fait le même score avec le film X-Men Le Commencement.
Encore une fois.
Est-ce que c'est pas les 3 films que j'ai annoncés dans la matinale de jeudi?
Si, c'est pour ça que les gens ont regardé.
Les mecs prévoient le top audience, c'est comme ça.
C'est ça.
Je suis en connexion directe avec les ondes.
Et le 4ème top de la semaine, on en parlait la semaine dernière. Vendredi soir, les Césars étaient diffusés sur Canal+, en direct et en clair. Présenté par Manu Payet, la cérémonie de récompense de la famille du cinéma
a rassemblé.
Personne dit famille comme ça au César, très rare.
Famille
a rassemblé plus de 2 millions de téléspectateurs, soit une hausse de 155 000 téléspectateurs et 0,9 points d'audience par rapport à l'édition précédente présentée par Jérôme Commander. On passe au flop maintenant de la semaine. Lundi dernier, Muriel Robin rendait visite aux jaguars, les animaux, pas les voitures, soyez pas cons, sur France 3, et ça n'a pas trouvé son public puisque seulement 1 900 000 téléspectateurs ont suivi les explorations de la comique. Et là, la catastrophe industriel de la semaine, c'est l'Anglais Co, diffusé jeudi soir sur France 2, qui n'attire que 1 165 000 téléspectateurs.
Qu'est-ce que c'est que ça?
C'est une émission éco présentée par François Langlais. Du coup, ça s'appelle l'Anglais Co.
Ah,
c'est
malin,
un jeu de mots
très malin.
Technique.
Ah, France Télé.
Et donc, ça fait moins que W9, qui avait fait 1,7 million ce même jour, et ça fait pareil que TMC et C8, mais en part d'audience, vu que les films de TMC et C8 étaient plus longs, bah France 2 est 7ème. Des audiences jeudi soir avec l'émission consacrée à la guerre des sexes dans le monde de l'entreprise. Le numéro de jeudi dernier fait moins que le dernier numéro diffusé en juin, qui a rassemblé 1,6 million. et c'était déjà pas une franche réussite tout ça. Donc voilà, donc Gir avait pronostiqué des bons succès d'audience.
Magnifique.
Et je vois que les gens suivent les conseils de Gir. Gir, est-ce que tu as un conseil à donner actuellement ?
Engagez-moi à France Télé.
Oui.
Voilà. Directeur de la programmation.
Il va vous allez faire à l'anglais Gir.
Non, juste directeur de la programme. Que des tueries, tous les soirs. Pour toi et ta petite famille, il y en aura pour tous les âges.
Voilà, allez, on va faire une pause musicale avec un son issu de la programmation musicale du 3ème lieu que vous pouvez écouter en dehors des émissions. C'est No Route de Alice Merton tout de suite sur le 3ème lieu. C'était Alice Merton, No Roots, sur le 3ème lieu. Et on passe tout de suite aux infos. Jingle.
Les infos.
Ou Zelda. On ne sait pas trop.
Je voulais mettre le vrai jingle, mais je crois que je vais mettre le tien. Alors, les infos. Vendredi matin, Jean-Pierre Elkabbach recevait Dominique Besnéard, le célèbre producteur et agent de star, interrogé sur les propos de la militante féministe Caroline de Haas, qui avait dit dans le journal L'Obs qu'un homme sur deux ou trois était un agresseur.
Ah oui.
Oui, oui. Elle a dit ça.
Non. C'est... Elle a raison.
C'est fondé.
J'en suis un moi-même. Protégez-vous.
Protégez-vous de le dire. Ce à quoi le producteur aux cheveux sur la langue a répondu en disant qu'il était féministe mais qu'il ne fallait pas faire d'amalgame et qu'il avait envie de gifler la journaliste.
Ah.
Jean-Pierre Récabache de dire qu'il n'était sûrement pas le seul. Ses propos ont choqué sur les réseaux sociaux et la fondatrice d'Oser le féminisme a déclaré qu'elle porterait plainte contre Dominique Besnéard. Le CSA va se pencher sur le dossier également. Une réaction de que des hommes autour de toi. Est-ce que vous osez le féminisme?
Je pense qu'on est un peu mal placé pour pouvoir commenter ça. Après, le fait que bon, Dominique Besnéard, ça le concerne, il dit ce qu'il veut. Si Caroline Dehaas porte plainte, il porte plainte. Mais c'est la réaction d'El Kabbach qui est dégueulasse. Quoi.
Vous êtes sûrement pas le seul.
Ah ouais, non, mais vieux con, quoi. Arrête, démissionne, arrête. Arrête de faire de journalisme, s'il te plaît. Tu étais là depuis 1933.
Voilà. Il a fondé la 5ème République, Jean-Pierre Récabache, il faut le savoir.
Il a signé la Constitution.
T'as vu passer trois guerres.
Il est
temps de se retirer.
Il a fait la prise de la Bastille, Jean-Pierre Récabache.
C'est ça.
À savoir.
Non, enfin, voilà. Donc, ouais, mec, arrête, quoi. C'est pas parce que t'es un vieux journaliste et que t'es là depuis longtemps que tu peux te permettre de dire tout et n'importe quoi.
C'est vrai.
C'est CNews, Récabache, c'est ça.
Exactement.
Ouais.
Donc, bon.
Voilà. C'est pas si étonnant que ça, au final.
Oui, ça peut se comprendre. J'irai une réaction à ça.
Je ne suis que trop d'accord avec les autres chroniqueurs. J'ai pas le capital culture journalistique pour parler là-dessus, en fait. Donc
Non, mais ne serait-ce que
sur les
propos de Dominique Besnéard qui disent qu'il veut la gifler, est-ce que ça te choque?
Non. Écoute, elle parle mal sur les hommes. Giflons-la, cette pute. Non, je rigole. Non mais écoute, moi je peux comprendre. Après, c'est sûr que quand t'es en télé ou que ça se passe en télé.
Exactement. Bah, sur CNews.
En télé, il y a un ton à adapter, un ton un peu plus conformiste et complaisant. Adapté, je pense qu'il le sait très bien. Mais moi, j'aime bien les genres d'écart comme ça, où ça parle un peu vrai, alors que c'est à la télévision française. Le mec voulait sûrement la gifler. Il l'a dit, c'est magnifique.
Allez, on passe à la deuxième info. Et le journal Libération n'a pas apprécié la cérémonie des Césars vendredi. Les critiques ciné du journal n'y sont pas allées de main morte avec le show et le maître des cérémonies Manu Payet. En période d'affaires Harvey Weinstein et Balance ton porc, les journalistes s'attendaient à un grand déballage, un lessivage intégral du cinéma, mais non. Alors je cite le journal, « Malgré les effets d'annonce, il semble que tout le monde ou presque était prêt à se contenter d'un cours express de consentement mutuel administré par le poussif Manu Payet et d'une standing ovation très pénétrée mais pliée en 45 secondes, dont on a eu quelques difficultés à cerner l'impact exact sur l'évolution des mœurs. »
Il y a des journalistes qui se plaignent du fait qu'il n'ait pas parlé de l'affaire Weinstein, genre.
Bah, qu'il en ait pas assez.
Qu'il n'en ait pas assez, qu'on n'ait pas fait.
En fait, il a fait un discours de quoi, une minute, deux minutes
dans son introduction.
Dans son introduction.
Sur ça.
Sur ça, enfin, même pas spécifiquement sur cette affaire, mais sur le MeToo, sur les conséquences de tout ça.
Et il y a des gens qui ne sont pas contents parce qu'il n'en a pas assez parlé.
Parce qu'effectivement, de ce que j'ai pu lire sur les internets, c'est que ça a été un peu bâclé. Alors que moi, j'ai vu cette vidéo.
Bah, au moins, il en a parlé.
Non, mais c'est pas juste au moins il en a parlé. C'est vrai qu'il aurait pu en parler un peu plus longtemps, que ça aurait pu mettre pas juste 45 secondes, une minute. Bah,
on
l'a
parlé
quoi.
Beaucoup dans la cérémonie. Blanche Gardin qui a parlé.
Exactement, c'était tout au long de la cérémonie, je trouve. Et les gens sont focalisés sur ça parce que très certainement, ils n'ont pas regardé la cérémonie.
Voilà. Autre D'accord. critique des journalistes Didier Perron et Julien Gester sur cette fois la prestation de Manu Payet. Abondamment irrigué en traits de génie par les auteurs géniaux élevés au bon gras par Vincent Bolloré, Manu Payet a aussi pris l'initiative de siffler l'heure du moment gênant comme archétype structurant des Césars depuis leur création. Ils ajoutent même que cette année, c'est l'intégralité de la cérémonie qui constituait une vaste cathédrale de gêne, hérissée de tous les poncifs de circonstances.
Oh, ils y vont fort.
Ils enfoncent le clou en critiquant le numéro d'ouverture, encore une fois je cite, « une certaine idée du bien-être le vendredi soir, saccageant en règle des numéros d'entame musical des festivités. » Donc, bon, ils ont
ils
pas
ont
aimé.
Ils n'ont pas kiffé, quoi.
Voilà, on peut pas... Voilà.
Faut en parler.
Et qui a regardé les Césars, là? Ou a vu des...
Moi, j'ai regardé... Enfin, jusqu'à une certaine heure, après ça me saoulait. Mais...
Pourquoi?
Non, mais ça dure beaucoup trop longtemps.
Mais c'est
en fait.
Très long, j'ai regardé jusqu'au bout, mais à bout de 23 heures, j'ai dit donnez vite les Césars, c'est terminé, arrêtez. Mais
quand on te suit sur Twitter, cher président, on n'a pas besoin de regarder les Césars.
C'est vrai.
Tu les regardes pour nous.
Mais moi, j'étais choqué d'une chose, en tout cas, c'est. Enfin, choqué. Ça va, mais. C'est le fait qu'Anne Hidalgo ait été sifflée comme jamais par
toute
la salle.
Elle s'est bien fait huer pour le coup.
Voilà.
C'est assez habituel souvent quand il y a.
Ouais. Mais de là à se faire siffler, il y a souvent des petites critiques. Et Manu Payet a justement eu du mal à réagir face à ça.
Bah ouais, il pensait pas que ça allait finir comme ça.
Il avait dit ah, ça fait bizarre de se faire applaudir, hein, Madame Hidalgo, et d'un coup, ah, hop, c'est parti sur des huées. Et là, voilà, il est.
Mais du coup, toi, Camille, un peu, t'en as pensé quoi de la prestation de Manu Payet?
Bah, mis à part le côté un peu kitschissime de l'ouverture avec les Césars personnifiés, dansant et s'exprimant pendant 5 bonnes minutes. Bon, c'était un peu. Et après, on a eu un plan sur la tête de Jean-Pierre Bacri qui était en mode qu'est-ce qui se passe ici? c'était classique, quoi. C'était. Je m'attendais à une performance un peu plus à l'américaine de Manu Payet comme on le connaît en stand-up en fait, et je pense qu'à ce niveau-là j'étais un peu déçu.
J'ai trouvé assez dans le stand-up, dans l'ouverture, le truc d'ouverture, de chanter, danser, je trouvais ça assez drôle parce que à chaque fois je me dis pourquoi au César on fait pas un truc un peu dansé que personne ne fait, donc là il le faisait.
Je parlais plus sur le corps même de la cérémonie, peut-être pas assez d'intervention fraîche quoi, c'était plus voilà on va enchaîner et...
Bah c'est souvent comme ça malheureusement, mais lui particulièrement je trouvais bon quand il fait la bande-annonce du film La Saucisse. Pour ceux qui ont vu, qui est assez drôle, il parodie des comédies nulles et il le fait bien. Et Libé parlait du moment gênant, le moment où Monsieur Poulpe vient et fait 5 minutes de moment gênant, moi ça me fait hurler de rire parce que j'adore Monsieur Poulpe déjà. Et c'est assez drôle quand il dit à Guillaume Canet hey, « t'aimes bien l'équitation, t'as à cheval sur tes principes » pour connaître que... Voilà, et quand il termine en disant 120 battements par minute, c'est interdit au moins de 14 ans, alors que ça fait même Poppers. Bon, on peut que s'incliner devant cette blague.
Donc, puis c'était prévu quoi, que ça soit gênant de la part de Poulpe.
Ah, mais il l'annonçait, c'est le moment gênant de la soirée.
Étant donné son niveau de brillance à cet homme.
J'aime beaucoup ce jeune. Je l'ai découvert sur No Life étant petit. Il faisait Mange Mon Geek, qui est l'émission ultime où il fait de la cuisine en parlant de sucer des bites, c'est incroyable.
Et il y avait Gérer Lolé sur vos tombes aussi.
Et Nerds aussi, pour vraiment les anciens. Est-ce que vous venez de Nerds avec Régis Robert et tout ça?
Certainement.
C'est beau.
Il y a quelques semaines, on vous parlait du conflit entre le groupe TF1 et Orange qui a refusé de payer pour diffuser les chaînes du groupe Bouygues. Cette semaine, le conflit s'intensifie avec Canal. En effet, depuis jeudi, les chaînes TF1, TMC, TFX, LCI et TF1 Série Film ne sont plus accessibles aux abonnés Canal.
Oh.
Réponse immédiate du groupe de Gilles Pélisson qui se plaint de la prise d'otage de ses téléspectateurs. Donc pour vous, qui est-ce qui a raison? C'est Canal qui du coup refuse de payer et prive ses abonnés de TF1, ou TF1 qui se plaint qu'il y ait une prise d'otage?
C'est Canal, TF1. On va pas refiler des sous non plus. Il est fou.
Il est fou ce garçon.
Ils sont fous. Non, vraiment, je suis pas hyper au courant de l'histoire. Donc, mais moi, qu'une chaîne de télé ne veuille pas payer la tyrannie TF1, n'est-ce pas? Ça ne me surprend absolument
coup,
pas.
Ça durerait que du coup, les prix de Canal augmenteraient pour la diffusion des chaînes
TF1. Bien sûr, bien sûr. Donc, je trouve ça normal. TF1 a d'un coup mis en place, a demandé d'un coup un.
Bah, leur contrat changé aux opérateurs s'est terminé en début d'année. Puis ils ont dit, maintenant, vous voulez qu'on paye.
Ah ouais,
et les gens ont dit non.
Bah oui, non. Surtout que TF1, quoi. Surtout en plus quand t'es abonné à Canal, pourquoi tu vas aller mater TF1 quoi. Sur Canal, t'as tout ce qu'il te faut, je pense.
Mm. Ouais, mais genre, je veux dire, quand tu utilises le décodeur pour regarder Canal, tu peux plus regarder TF1. Donc du coup, ça te demande de switcher entre la
TF1. Mais est-ce vraiment dommage de ne plus pouvoir regarder TF1?
Bah, pour beaucoup, parce que par exemple, samedi soir, The Voice a perdu.
À part pour les sexagénaires.
Samedi soir, The Voice a perdu 1 million de téléspectateurs, du coup. Donc c'est-à-dire que sur les 6 millions sur les 6 millions d'abonnés de Canal, il y en a 1 million qui devaient regarder The Voice. Et du coup ce week-end TF1 et des audiences en berne.
Il faut aussi dire que TF1 c'est aussi groupe TF1. Donc, du coup plus de NT1, plus de compléments d'enquête, plus d'enquête d'action.
Putain,
c'est vrai.
Merde.
Comment on va se mettre au courant de la brigade de Grenoble?
Le CHU de Lille. Marseille entre plage et drogue, vraiment c'est toutes des belles émissions.
C'est terrible.
Voilà, et on passe, on s'en fout, on s'en fout pas.
Ouais, ça j'adore.
Et t'adores cette jingle?
Ça, j'aime trop, ça.
Jingle, on s'en fout, on s'en fout pas.
On s'en fout, on s'en fout. Magnifique ou pas?
Oui. Alors,
une minute de silence.
Je rappelle le principe de la chronique, on s'en fout pas, je vous donne une info. Chacun à votre tour, vous dites on s'en fout pas. S'il y a une majorité de on s'en fout pas, on en parle. S'il y a une majorité de on s'en fout, on n'en parle pas. Et on commence par Philippe Vandel qui s'explique sur son autoplagiat. Florent.
On s'en fout.
Ok.
Je sais pas qui c'est donc je m'en fous pas.
Il s'en fout pas, Jiri s'en fout pas, Guillaume.
Moi je m'en fous pas parce que ça m'intéresse. Enfin je connais pas l'histoire donc.
Tu connais Philippe Vandel?
Oui, je connais très bien Philippe Vandel.
J'ai besoin d'un point culture. Je...
D'accord. Alors les équipes de l'émission Quotidien ont montré que le journaliste au blazer et t-shirt, donc c'est voilà, Philippe Vandel, c'est celui qui est arrivé en télé et qui a dit on va mettre un t-shirt sous un blazer, qui a fait nulle part ailleurs, qui était
C'est un journaliste spécialiste média voilà. qui était dans Nulle part ailleurs sur Canal Plus il y a 20 ans et qui aujourd'hui présente le Village
qui était après dans la bande à Ruquier et maintenant est sur Europe et était sur France Inter avant.
Ok, exactement.
Et en fait il a une chronique qui s'appelle Les Pourquoi. Donc il explique un truc, par exemple pourquoi les joueurs de foot dribble, pourquoi machin, voilà, il explique des choses comme ça.
Pourquoi les joueurs de foot dribble, c'est intéressant.
Oui, je t'expliquerai en rentrée.
Ouais, ça marche.
Parce que tu aimes bien tout ce qui est en dehors du sport.
Exactement.
Et donc, Quotidien s'est rendu compte qu'il reprenait ses anciennes chroniques de France Inter pour les refaire sur Europe 1.
Oh, tu veux dire qu'il avait tout coffré dans le Google Cloud et qu'il ressort ça 20 ans après. Oh, il est fort.
Et donc, il a été interrogé à ce sujet par Voici. On a le journalisme qu'on mérite. L'animateur a dit que comme il en était l'auteur, il se permettait parfois d'en prendre pour les réutiliser.
Il a bien raison.
Il ironise en disant qu'il aurait peut-être mieux fait de demander à un assistant d'écrire ses chroniques comme le font beaucoup d'autres animateurs télé.
Bonne réponse.
Et il rappelle que ça lui a servi de leçon, mais que c'est quand même moins pire que s'il avait pris les textes des autres. Donc en fait, il n'y a pas d'affaire en fait.
Non, il y a zéro affaire, c'est juste bah... Il a raison, t'as raison Philippe.
Continue. Bah ouais, en plus te faire chier quoi.
Viens chez nous Philippe.
Bah, ça fait 20 ans, ça fait 20 ans tu grattes des chroniques, t'as même le droit de reprendre les premières. Ça
oui, va. il en prend une de temps en temps quoi. C'est pas, il refait pas les mêmes depuis le début de la saison, ce qui est à la vue, mais voilà.
Quotidien, changez de combat s'il vous plaît.
Allez, deuxième info, la chaîne L'Équipe va diffuser le catch américain.
Putain.
Gire.
Oh, je m'en fous pas. Je ne m'en fous pas.
Florent.
Je m'en fous pas.
C'est grand.
Guillaume.
Oh, moi, je m'en contrebalance.
Comment sont...
Alors, à partir du 10 mars, la chaîne sportive de la TNT diffusera l'émission de catch Raw.
Abusé.
Le samedi à 10h du matin, puis en deuxième partie de soirée. C'est la première fois que le catch est diffusé en clair à la télé française, puisque depuis 2002, ce sport était diffusé sur les chaînes RTL 9 et AB1.
Donc... Il y avait sur Canal le catch avant.
Quoi ?
Il y avait sur Canal le dimanche le catch.
Ah bon ?
Bah ouais, dimanche matin.
T'es sûr ?
Ah, certain.
Bon.
Bah, je sais pas si c'était en clair.
Game One avait un truc un peu bresson, un peu sombre de catch, rock'n'roll catch, un truc comme ça. Mais sinon, je sais pas
si c'était en clair sur Canal. Mais en
non,
tout
ça
cas,
devait
ça...
pas être en clair.
Mais en tout cas, c'était le dimanche matin sur Canal. Ou avant sa cartoon, je ne sais plus.
Sa cartoon, c'était à 19h.
Ouais, donc c'était sûrement avant sa cartoon, je crois.
Ça a été remplacé par Canal Football Club. Et avant, Canal, l'émission de Virginie Fira. Oui, Virginie Fira a fait une émission.
Canal Presque ?
Oui, qui était une merde ! J'aime beaucoup Virginie Fira, mais son émission était nulle.
Ouais.
Nulle à chier. Alors, les fans de catch.
Je suis absolument pas fan de catch.
Bah, je sais pas, t'as l'air
beaucoup rire. Ça me fait beaucoup rire.
Est-ce que tu veux faire passer est-ce que tu veux faire le coup de la corde à linge sur l'équipe?
Bientôt. Bientôt catch à l'antenne.
Catch à l'antenne sur le troisième.
Supplément bout.
Est-ce que tu vas faire une catch blanche?
Ouh, technique.
Bah, à votre avis, du coup, vous en foutiez pas?
Pourquoi pas? Il y a plein de jeunes en manque d'identité, en manque de divertissement qui demandent que ça, du catch à la télé, tu vois. Donc, bien.
Ok, Florent.
Non, puis ça rejoint ce qu'on disait encore une fois il y a deux semaines sur la programmation de l'équipe. Ils se diversifient, c'est très bien. Et je suis pas non plus fan de catch. même si il y a quelque chose qui m'a surpris dernièrement, c'est je sais pas si vous connaissez Ronda Rousey. Qui était championne du monde d'UFC, donc de combat en cage.
Oh, okay.
Et qui s'était fait défoncer par je ne sais plus qui lors de son dernier combat.
Un zèbre.
Elle s'est... Nouvelle règle.
Quand ça ne marche pas, tu mets un animal.
Un animal, et voilà. Et en fait, elle a annoncé là, il y a 3 mois, qu'elle entrait dans le catch, en fait. Donc elle quittait les combats traditionnels. Et...
Mais sachant que ce n'est pas des vrais combats.
Voilà, c'est ça.
C'est la représentation, c'est du théâtre. C'est ça qui est ouf avec ça. C'est que ça continue, je sais pas, la mascarade continue, tu vois. Alors je commence une carrière dans le catch, tu commences une carrière de comédien sportif, quoi.
C'est ça.
C'est incroyable, j'adore. C'est qu'il y a que nos amis américains.
Ouais, c'est ça.
C'est bien John Cena qui faisait du catch.
Voilà. Ouais, bien sûr.
Après, c'est ce que je veux dire, après tu finis en même, c'est tout.
C'est ça.
Mais The Rock.
The Rock avait du catch ?
Bah oui, carrément, oui, attends. The Rock, c'est un catcheur même avant d'être un acteur.
The Rock.
Il a même carrément fait du catch, genre plus qu'un peu.
Je ne regarde pas le catch.
Ah ouais. Tu as raté plein de belles choses. Quand t'étais gamin, Rey Mysterio, t'as pas connu la grande époque.
Non, je faisais.
The Undertaker.
Je suivais des sports
avec
de blanc.
Avec les conflits tout faits, ils te font croire qu'en fait, il y a 2 catcheurs qui vont s'affronter. En fait, c'est
je
des orphelins d'enfance.
Je pense que j'ai jamais vu un seul match de catch de ma vie.
C'est fou.
Moi non
plus.
Moi, je ne regarde que des sports de blanc.
C'est trop drôle.
Je ne regarde que du tennis ou du football.
Ou du handball.
Le film The Wrestler, pour ceux qui n'ont jamais vu. Incroyable également.
Et ben voilà, un autre conseil de Gilles. Troisième info, la chaîne NBC va la chaîne NBC va supprimer les pubs dans ses primes. On s'en fout pas, Guillaume. On s'en fout.
Oh, on s'en fout pas. NBC.
Oui.
Non, on s'en fout pas.
Gilles.
Je m'en fous.
Florent, je m'en fous pas.
Alors, face aux nouvelles concurrences que sont le streaming et Netflix, la chaîne NBC a décidé de s'adapter au nouveau mode de consommation des téléspectateurs et a annoncé qu'elle diminuerait la quantité des publicités diffusées en prime time. Le nombre de pages de pub va diminuer de 20% et sa durée de 10%. Et le but à terme, c'est qu'il n'y en ait pratiquement plus en prime.
On passera de 3h à 2h45.
C'est magnifique.
C'est ça. Surtout qu'en plus, les sets au niveau des spots de pub, c'est à peu près toutes les 12 minutes.
Ouais. Ton film est coupé 5 fois, même ton épisode de Simpson est coupé 3 fois.
Ça veut dire que les JT sont coupés.
Quand vous regardez un épisode sur Netflix ou sur les internets, à chaque fois que vous voyez un petit écran noir, en fait, c'est une pub.
Même à la télé, hein, tu regardes les Simpsons sur W9, tu le vois.
Oui, tu le vois bien. Quand tu regardes Friends à la télé, bon, je sais que vous. Autres films, personne ne regarde Friends à part moi.
Mais bien sûr que si. Pourquoi cette rumeur?
Quand j'étais petit, ma soeur et ma mère se tapaient l'intégrale en boucle, Guillaume, je voyais ça de loin en me moquant. Je faisais, mais c'est vraiment un truc de fille.
À chaque fois vous voyez un écran noir, et ben c'est de la publicité aux États-Unis. Mais non, moi je trouve ça super intéressant parce que les networks américains, c'est quand même basé uniquement sur la publicité, quoi.
Ouais, carrément. Et là, si on commence, la concurrence est tellement rude qu'ils sont obligés de diminuer le nombre de pubs, c'est quand même intéressant.
Là, c'est qui,
c'est j'aurais là, dû ne pas m'en foutre. Voilà.
Je suis déçu. Allez, Florent.
Ouais, non, mais c'est cool parce que quand je regarde le replay de. Enfin, je sais pas s'ils comptent le Tonight Show de Jimmy Fallon en prime, ça m'étonnerait.
Non, je pense que c'est
en
troisième.
C'est en late show. Oui, c'est
en troisième partie de soirée, je crois.
C'est 23h.
Ouais.
Je crois, ouais.
Et celui d'après, c'est à minuit.
Ouais, bon, du coup, c'est chiant. Parce qu'on... Non, il y a un truc qui m'énerve, c'est qu'il fait l'émission où il y a déjà 3 ou 4 coupures pub.
Ouais.
Et après le live, en dernière partie d'émission, le live musical, ils font une dernière coupure pub.
Pour qu'il revienne et qu'il fait merci. Tôt.
Voilà, c'est ça, exactement. Il revient pour 30 secondes, il fait merci, à demain.
Il monte le vinyle comme ça et il se barre. Voilà. C'est vraiment la coupure. Arrêtez. Faites une coupure de moins. Et tu te disais, donc les écrans noirs sur les séries qui montent les pubs. Et ben en France, on est tellement idiots qu'on met même pas la pub au moment de l'écran noir.
Non, parce qu'en France, c'est des connards. Sur Sister, j'avais remarqué ça.
C'est les mêmes que W9.
C'est sur les chaînes M6 en fait. Ils peuvent envoyer la pub au milieu d'une phrase. Genre, ils s'en battent complètement les couilles. Genre, je me souviens, ça m'avait marqué pour Desperate Housewives. Je ne sais plus pourquoi. J'avais regardé ça à l'époque sur Sister parce que j'étais tombé là-dessus.
Oui.
Et ils coupent en plein milieu d'une phrase, mais ils s'en battent complètement les couilles.
Parce qu'en fait, c'est pour des économies. En fait, sa régie publicitaire de Sister est basée sur la W9. Donc, cette W9, ça tombe au bon moment.
Ouais.
Et donc, du coup, Sister, ça peut tomber en plein milieu d'une phrase.
Ah, mais vraiment, genre.
Oui, c'est ça.
C'est vraiment au milieu. Quoi. C'est lancé comme ça, mais. À la grosse zeub.
Ouais, c'est
mais
ça. Après, c'est chiant quand tu regardes Kaamelott.
Ouais, mais pour avoir déjà été un peu voyager un peu au Canada, qui est un peu comme les États-Unis, je m'en souviens quand tu mates même un épisode de Simpsons, t'as genre 4 coupures de pub au milieu de ton épisode. Ouais. C'est impossible. Déjà qu'en France, la pub c'est horrible parce que c'est trop long, mais au States c'est pire encore. C'est impossible à regarder. Ton film il est coupé 6-7 fois, laisse tomber.
Voilà. Allez, on passe à la prochaine info. On en avait parlé il n'y a pas longtemps, c'est un feuilleton qu'on suit dans une média res. Une dizaine de personnalités retirent leur soutien à. Le média.
Ah ouais, donc ça je m'en fous complètement.
On s'en fout.
Ouais, franchement. Gire.
Je sais plus trop ce que c'est. Tu peux me faire un petit point pour savoir si je m'en fous ou pas. Le média, c'est quoi?
Le média, c'est la web TV de la France Insoumise.
Non. Ah. La web TV qui soutient la France Insoumise et qui était créée par des proches de Mélenchon.
Comme dit Gérard Miller, qui choisit la musique, choisit les orchestres.
Certes.
Et bon, moi je m'en fous pas complètement.
Il s'en fout pas complètement, Florent.
Il faut arrêter de leur donner la publicité.
On s'en fout.
Putain, je suis seul contre tous ce soir.
La société de production d'Harvey Weinstein va se déclarer en faillite.
Ah,
je connais l'histoire, elle est très drôle.
On s'en fout pas.
Bah raconte alors.
Mais, de ce que j'ai lu, c'est qu'elle va être déclarée en faillite, et elle va être reprise par par une autre compagnie et le conseil d'administration est composé pratiquement uniquement de femmes.
C'est excellent. Ça.
Je trouve ça extrêmement drôle, extrêmement ironique et ça me fait beaucoup rire et donc girl power.
Mais le problème étant que si la société se déclare en faillite, pas de dommagement pour les actrices qui portent plainte. Contre la société et d'Harvey Weinstein.
Merci.
Des frères, des frères. Merci le tribunal.
Mais qui va produire Tarantino maintenant? La même compagnie, l'idée par des nanas? Ça va s'engueuler.
Peut-être. Ouais, ça.
Mais il a pas sa propre boîte de production, Tarantino ?
Bah, il y a beaucoup de ses films, c'est Weinstein, presque tous, non ? Même les derniers, non ?
Non.
Bah, j'ai revu
Django, déjà.
J'ai revu Les Huit Salopards il y a pas longtemps, au début, c'est Weinstein,
complètement. Ah ouais.
Ouais.
C'est pas compliqué, ces derniers années, il a quand même fait Le Discours d'un Roi. Il a fait The Artist, il a fait Django.
De toute façon, que ça va pas affecter, ça va nous affecter nous. C'est juste c'est extrêmement ironique, mais Weinstein va continuer à tourner. Ça va tourner en sous-marin.
Mais ça va peut-être changer de nom.
Soum-soum.
Juste un petit truc que j'avais vu, une info assez drôle. C'était Lindt, les chocolats, qui portait plainte aussi contre Weinstein.
Quoi?
Pourquoi?
Nani?
Parce qu'ils étaient censés sponsoriser toutes les soirées after party des Oscars et des différentes.
Et
différentes.
Que depuis l'affaire, ils sont fait niquer
et
leur
voilà,
contrat.
En fait, il n'y a aucune soirée Weinstein qui ont eu lieu après les Oscars ou après n'importe quelle cérémonie. Donc du coup,
ah oui, ils devaient faire les traiteurs, genre un truc comme ça.
Genre, rupture de contrat, du coup, ils portent plainte. Extrêmement drôle.
C'est drôle. Même le lapin or porte plainte contre.
Pour abus sexuel.
J'espère qu'il ne l'a.
Il s'est fait toucher le grelot.
Allez, sans transition, Loana revient sur l'évolution de la télé-réalité en une de Elle.
Alors, j'ai vu cette une, donc moi je m'en fous pas. J'ai vu la une et elle est classe.
On s'en fout pas pour à ma gauche,
moi je m'en fous pas.
En face de moi, on a l'air de s'en foutre.
On s'en fout pas, mais on s'en fout. Je vois ce que veut dire Florence, c'est qu'on s'en fout.
On s'en fout.
C'est que la une de Elle, effectivement, est très jolie, je trouve. Elle est assez classe, elle est pas elle est pas provocante, elle est pas vulgaire ni rien. Je la trouve très jolie et je trouve que comme pour que vu que c'est Loana, on s'en fout pas. Si ça avait été un autre pélo, une autre meuf, si ça avait été Kenza, tu vois.
Donc on s'en fout pas, on s'en fout, et c'est moi qui tranche.
Oui.
Et ben on s'en fout pas. Plus d'infos, plus de fun.
Alors donc la une de Elle, comme l'a si joliment présenté Guillaume. Donc elle a une interview où elle revient sur sa dépression et sa prise de poids, mais surtout sur les différences entre les premiers et derniers candidats de télé-réalité. Selon elle, la télé-réalité est devenue un métier dont les princes participants actuels connaissent tous les codes. Elle rajoute que les candidats du Loft critiqués à l'époque étaient fleurs bleues et gentillets, comparé à ceux d'aujourd'hui qu'elle trouve remplis d'agressivité et de vulgarité. Elle a raison.
Ouais, je suis parfaitement d'accord. Ayant vécu le Loft sur M6...
J'étais à des participants.
J'avais 10 ans quand le Loft a commencé.
Quoi, le Loft, c'est l'ancêtre de The Ghost Stories,
c'est
le premier... Le Loft, c'est la toute première télé-réalité en France. Il y avait 18 candidats, 20 caméras.
C'était en quelle année le Loft?
C'était en 2001.
Ah, tu as vu,
en 2001
ans,
sur
déjà.
M6. Et c'était Benjamin Castaldi qui présentait. C'était assez impressionnant et c'était cool quoi. La maison, elle faisait la taille du studio.
Petite maison.
Oui, c'est une maisonnette hein, le
c'est
truc.
C'est un T3. Bah 20, c'est compliqué.
Mais c'était marrant à l'époque. Après, je regardais pas assidûment, mais ouais. Et même quand ça a évolué vers Secret Story, Nice Story, enfin tous les.
Il a sorti Nice Story. Ouais. Wow.
Tout le monde avait oublié. Présenté par Arthur et Estelle Lefebvre.
Quoi? C'est vrai. Et c'est sur TF1.
C'était sur TF1 avec Serena, avec
tu me fais de la peine. Tu me fais de la peine. Tu sors beaucoup trop d'anecdotes sur cette émission. Je vais tourner à ma droite, Gire.
Oui, c'est moi.
Non, mais oui, effectivement, les candidats à l'époque du Love Story étaient beaucoup plus gentillets quand tu vois
Stevie.
Les monstres que c'est maintenant qui font du rap après. Est-ce que t'as vu le mec de Story, le rap qu'il a fait là, Marvin?
Non.
Il fait du rap, il dit il va t'égorger, il va te planter, négro et tout. C'est violent. C'est pas cool. Ils sont pas gentils ces gens. Non, surtout, c'est évident que peut-être c'est à une époque, quoique. Peut-être à l'époque de Loana, qui est un vieux dinosaure du game, peut-être qu'à l'époque c'était un peu plus authentique. Mais c'est clair que maintenant.
C'était le premier, mais est-ce qu'à l'époque
ils avaient déjà. C'est sûr pour moi qu'ils avaient déjà des scénarios et tout comme maintenant. Maintenant, il n'y a rien de réalité.
Le truc, c'est que c'était même pas scénarisé. Il y avait juste un ou deux participants qui étaient recrutés parce qu'ils étaient un peu rigolos et particuliers, qu'ils étaient là un peu pour faire le show. Comme David, le type qui s'amusait à faire. Qui a joué du piano avec des verres, là, tu sais, en faisant tourner sur ses doigts autour des verres pour faire de la musique. Il était complètement pété. Genre, c'est la production qui lui avait dit de faire ça et de péter les plombs, de faire ce qu'il voulait, quoi. Mais sinon, à mon avis, à mon très, très humble avis.
Mais en tout cas, il le faisait pas comme ce matin pour essayer de.
Exactement, c'est pas les Marseillais en Australie, quoi.
Le grade de la célébrité.
Même si j'ai écouté et ma coloc regardait les Marseillais et.
Change de col.
Et. Trop tard. Et ouais. Ma mère regarde aussi.
Ah, ouh. Change de mère.
Ouais, non, je vais pas changer de maman, mais. Voilà, ouais, voilà.
Allez, le mot de la fin, Florent, avant la pause musicale.
Pause musicale.
Ben, parfait. Encore une musique issue de la programmation de L3L. C'est Teamed Up, et ce n'est pas
non.
De R-Centre.
Non.
C'est Vers les ours polaires.
Ah, j'adore cette chanson.
Et on écoute ça tout de suite sur le troisième lieu.
Je vais ici et là jouer de mon piano dans des soirées au fil de l'eau. Qu'est-ce que la vie des gens, sinon celle dont ils rêvaient enfant? Et moi j'ai toujours voulu devenir un ramasseur de souvenirs. J'effleure le blanc et le noir en attendant que vienne le soir ou une silhouette de hasard dans la pénombre de ce bar. Oublie la fadeur de ces jours pendus à mes notes de velours. J'ai mis des sons, des rires et des airs, tout ça dans un grand sac de verre. J'ai pris mes clics et quelques bières, je suis parti jusqu'au bout de la terre. J'ai mis des sons, des rires et des airs, tout ça dans un grand sac de verre. J'ai pris mes claques et mes chimères, je suis parti voir les ours polaires. Le grand cabotage de rencontres en partage, je veux voir les autres autrement, toucher leur vie, leurs sentiments, et nous partirons vaille que vaille au souffle de ce que nous sommes, provoquer quelques entailles à l'idée qu'on se fait des hommes, plus de peine ni d'histoires vaines. C'est décidé ce soir, putain, je quitte la plaine. J'ai mis des sons, des rires et des airs, tout ça dans un grand sac de verre. J'ai pris mes clés et quelques bières, je suis parti jusqu'au bout de la terre. J'ai mis des sons, des rires et des airs, tout ça dans un grand sac de verre. J'ai pris mes claques et mes chimères, je suis parti voir les ours polaires. J'ai mis des sons, des rires et des airs, tout ça dans un grand sac de verre. J'ai pris mes clics et quelques bières, je suis parti jusqu'au bout de la terre. J'ai mis des sons, des rires et des airs, tout ça dans un grand sac de verre. J'ai pris mes claques et mes chimères, je suis parti voir les ours polaires. Polaires, voir les ours polaires. Polaires.
C'était Team Up sur le troisième lieu. Et on passe tout de suite à l'actualité. Vous pouvez voir le petit jeu de mots. L'actu vu par Twitter. Guillaume, un jingle?
Oui, on est en train de m'appeler là. un jingle, l'actualité?
Oui.
Tweet, 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 l'actualité. Tweet, tweet, tweet.
Oh mon dieu. Alors. je ne sais pas quoi faire après ça, c'est tellement beau. Une des tendances de la semaine, c'est le hashtag paye ton auteur, qui est apparu en raison de la tenue du Salon du Livre de Paris, qui se tiendra entre le 16 et le 18 mars à Paris, comme le nom l'indique. Et le problème étant que les auteurs qui participent aux conférences et aux dédicaces du salon ne sont pas payés. La communauté des auteurs et lecteurs sur Twitter s'est plainte, a suivi le mouvement de la youtubeuse Yessi, qui a lancé le hashtag à partir d'une vidéo dans laquelle elle explique le problème. Le directeur du SNE, Syndicat National des Éditeurs, et le directeur du salon ont alors publié des communiqués annonçant qu'ils allaient payer une partie des auteurs, puis enfin payer tous les auteurs, mais apparemment ce n'est pas le cas. Donc voilà, les auteurs qui se plaignent de ne pas toucher d'argent, de ne pas être payés. Et il y avait à peu près le même problème, bon c'est pas les auteurs de livres, mais avec les droits d'auteur non payés par Canal+, pendant un moment, donc il y avait tous les mecs du studio Bagel ou autres qui gueulaient parce qu'ils ne touchaient pas de droits d'auteur. Ouais. Voilà.
Okay. Vous avez l'air de vous en battre les couilles.
Non, mais c'est l'éternel problème du travail gratuit. Moi, je pense à toute la communauté artistique graphique, ouais. Etc. C'est pareil. C'est,
tous les créas.
Voilà, c'est j'ai besoin de, je sais pas, d'une création graphique. Non, mais vas-y, fais-le gratuitement, ça te fera de la promotion, de la publicité.
Bah, c'est ça.
Voilà, c'est. Et non.
Payez les créas, payez les auteurs, parce que faire un logo, machin, faites une affiche sur les mecs qui font des créas,
c'est pas la popularité que tu vas gagner après la publication de ton travail qui te fera manger, quoi. C'est
ouais. Ça, c'est. Oui. Ah, okay. On passe autre tendance sur Twitter. L'opération de Neymar a beaucoup fait parler sur Twitter entre les supporters parisiens qui se plaignent de perdre leur joueur phare. Tu vas me manquer, mon étoile brésilienne. Les supporters des autres clubs qui en parlent également, les journalistes qui relaient des infos et ceux qui se plaignaient qu'on en parle trop. Et ben, l'opération de Neymar s'est souvent retrouvée en TT.
Pourquoi? Parce qu'il s'est fait opérer.
Il s'est fait opérer.
De la cheville.
Oui. Oui. Il s'est souvent retrouvé en TT. Donc, est-ce que vous trouvez qu'on en fait trop médiatiquement sur Neymar ou pas?
C'est un foot. Je n'en ai rien à foutre. Je suis désolé. Ça ne me concerne pas.
Mais
ce genre ne vit pas dans le même monde que moi. Je ne sais pas qui c'est.
Ah, quand même, Neymar.
Oui, mais je non. Enfin, je sais qui c'est, mais ça n'existe pas.
D'accord.
C'est un mec.
Voilà. Et les autres?
Moi, j'ai trouvé ça un peu abusé, quand même. C'est-à-dire que je comprends que ça puisse intéresser beaucoup de monde, moi y compris. Je me suis dit, bon, c'est bien. Le truc un peu abusé, c'était peut-être le direct de BFM TV, je me souviens. C'était là, il y a deux jours. Donc, juste avant l'opération, elle était le soir.
C'était vendredi soir, je crois.
Voilà, vendredi soir. Donc, vendredi dans la journée, ils ont fait un direct avec une correspondante à Rio de Janeiro qui était sur la plage, qui disait alors, oui, une partie de l'hôpital a été privatisée, machin, etc. Et tu voyais des images de promotion de l'hôpital où tu voyais la chambre, une suite de 300 mètres carrés. Enfin, au bout d'un moment, il faut arrêter, quoi.
C'est trop.
C'est trop.
Et je suis d'accord avec
c'est bien voilà, en effet.
Même si je pleure chaque jour depuis une semaine d'avoir perdu
Footix,
notre étoile brésilienne. Je t'emmerde.
Mais il est mort?
Non, il est blessé.
Oui, oh bon, on s'en bat les couilles alors.
Sa saison est terminée.
Footix,
ah bah chaton. Je sais qu'il est joli, mais c'est tout ce que.
Je sais qu'il...
je bah ça, il est joli.
Merci Guillaume de faire l'after.
Une tête bizarre. Avec une coupe bizarre et des cheveux bizarres.
Ah oui, mais les cheveux ça se rase, c'est pas
enfin, en tout cas, ça fait la deuxième fois où on a un gros bruit médiatique. La première fois, c'était quand même la soirée d'anniversaire de Neymar.
C'est vrai. Et le transfert aussi.
Et le transfert, ouais. Bon, le transfert, c'est normal, peut-être.
Ah, mais
un peu plus normal bien,
que sa soirée d'anniversaire. Il y a eu quoi, sa soirée d'anniversaire? Juste, elle était extravagante.
Tout le monde en a parlé.
Ouais, voilà, c'était. Je sais même plus où c'était.
C'était dans une boîte dans le 16e arrondissement. Et en fait, c'était un très gros truc. Donc, il y avait tous les joueurs du PSG. Il y avait plein d'invités.
Et la fête était sponsorisée.
Voilà, en fait, c'était Nike qui payait tout. Et tous les stands, genre la boisson et tout ça, c'était les marques qui payaient pour être là, en fait. Donc, ça faisait un gros coup de com' pour eux. Et le PSG avait fait un gros truc médiatique sur ça, et les gens s'étaient plaints parce que c'était deux jours avant un match.
Donc ton anniversaire est un salon publicitaire.
Voilà.
C'est extraordinaire.
Mais c'est Neymar, quoi, donc en même temps, c'est normal. Moi, j'ai demandé pour mon anniversaire que Nike paye, ils ont dit bah non. J'étais déçu.
Je sais pas si vous connaissez Entourage, la série. Et c'est marrant parce qu'il y a un des épisodes où c'est exactement ça. C'est en fait, on n'a pas d'argent pour faire un anniversaire de ouf, donc on va tout sponsoriser.
Et ça marche.
Et ça marche.
Et bah, c'est
excellent. Voilà.
Et bah voilà, faites sponsoriser votre anniversaire. Et on passe au dernier hashtag de la semaine. Après le hashtag balance ton porc, on passe au hashtag maintenant on agit, lancé au César, un groupe d'actrices ou réalisatrices associées à la Fondation des Femmes, qui réunit des associations de victimes de violences faites aux femmes, ont décidé de passer à l'action. Comment? Alors déjà avec le ruban blanc emporté à la cérémonie des Césars vendredi soir, puis en organisation des manifestations, en lançant des projets de loi en coopération avec l'État. Donc si tout le monde, ou presque malheureusement, se réjouit que les mentalités changent, certains, peut-être à juste titre, se demandent si porter un ruban blanc ou mettre une robe noire aux cérémonies, ça va faire changer grand-chose, et si les actrices sont bien placées pour faire avancer la lutte. Guillaume?
Non, moi ça me saoule cette critique de dire oui, c'est pas parce que vous portez un ruban blanc que les choses ont changé. C'est une action publique, c'est juste pour montrer, regardez, au César, on s'en fout pas, quoi. On va en parler, on en parle, on agit, on a quelque chose pour le montrer. Et effectivement, il y a des choses de prévues, très certainement, des projets de loi, etc. C'est bon, calmez-vous là, les crypto-féministes et les crypto-journalistes et ceux qui nous cassent les couilles là toute la journée.
Les rageux.
Les rageux, mais ouais, mais putain, mais rentrez chez vous, quoi, changez de combat. Voilà, allez sur Fortnite et faites pas chier.
Gire.
Oui.
Tu es concerné, tu joues à Fortnite.
Oui, comme 40, 55 millions de personnes.
Ouais.
Amérique.
Non, mais
ce que je veux dire, c'est que c'est bon, arrêtez, quoi, arrêtez de tout critiquer, de vouloir tout critiquer. Ouais, effectivement, c'est pas comme ça qu'on agit, mais c'est un bon début, je trouve. Ouais. C'est une bonne, une belle porte d'entrée.
Ce qu'elles peuvent faire en tant que.
Qu'en tant qu'actrices qui sont au César et qui voilà. De toute façon,
tu vas pas te ramener seins nus et tout péter au César, quoi. Le blanc, c'est pas mal.
C'est pas ambiance féminine non plus. Ouais, je
suis bien d'accord avec
plus,
ce que tu dis.
Je critique pas du tout les féminines, au contraire, mais je veux dire, c'est bon, ça reste une cérémonie de remise de prix pour le cinéma français. Voilà, c'est effectivement, oui, il y avait sa place, il y avait la place d'un débat pour en parler, enfin une discussion animée pour en parler, il y avait la place d'un discours pour en parler encore une fois. Mais voilà, je trouve que c'est une bonne forme de représentation, de porter des robes noires pour les actrices, de porter un ruban blanc pour tout le monde. Voilà, je trouve que c'est une belle façon de commencer à agir. Après, yes. Que les rageux ragent, et ben tant pis pour leur bonne race.
Ouais, on dirait un texte de Nekfeu.
C'est moi. je suis le phantom writer de le
ghost writer.
Le ghost writer de
Nekfeu.
Le
Nekfeu comme diraient les Américains.
Oui.
Nekfeu.
Nekfire.
Nekfire.
Allez, enchaîne.
Très bien.
Allez. La dernière pause musicale de l'émission avant de passer au débat ou discussion animée de la semaine sur les fake news et les théories complotistes qui pullulent sur internet. On écoute Tango de Galt McDermott, issu de la programmation de L3L. C'était Tango de Galt McDiarmid sur le troisième lieu. Et on passe au débat de la semaine. Guillaume, un jingle, débat de la semaine. Bon, allez, on va faire avec. Alors, selon un sondage réalisé par l'IFOP en janvier dernier, 8 Français sur 10 croient au moins à une théorie du complot. Et les jeunes sont les plus réceptifs, puisque 30% des 18-24 ans y croient. 32% des Français croient que le sida a été créé en laboratoire. 9% pensent que la Terre est plate. 16% des Français sont persuadés que l'homme n'a jamais marché sur la Lune. Mais comment expliquer que les Français croient en autant de complots? Internet n'aide pas avec la prolifération de vidéos parlant d'Illuminati ou autres, avec en fond sonore la musique de Requiem for a Dream que vous entendez derrière moi. Il n'y a pas que les théories du complot qui polluent Internet, les fausses infos ou
fake news
polluent Internet et trompent les esprits les moins préparés. Que ce soit des sites parodiques comme le Gorafi ou The Onion, des sites de fausses infos qui veulent diffuser des articles qu'ils pensent peut-être vrais ou pas, beaucoup de sources de fausses infos existent. Et beaucoup de gens tombent dans le panneau et partagent ces articles en les prenant pour de vraies infos sans vérifier préalablement. Ce phénomène prend tellement d'ampleur que Emmanuel Macron a annoncé qu'une loi pour lutter contre les fausses informations devrait voir le jour. Le gouvernement annonce vouloir travailler en coopération avec Google, Facebook ou Twitter pour qu'ils fassent un travail de suppression des comptes, mais les plateformes se refusent d'avoir un rôle de vérificateur d'informations et surtout ils veulent maintenir l'anonymat des utilisateurs, donc c'est compliqué.
Faudrait surtout pas avoir une responsabilité en tant que média. Bah oui. Surtout pas.
Il y aura un contrôle du juge des référés qui décrète ce qui est faux ou pas. Le CSA pourra agir sur les publications internet aussi.
Oui.
Pour sanctionner, mais cela sera très compliqué à mettre en place sur les réseaux sociaux où tout va très vite, comme le dit la chanson de Laurie. Cette loi est encore floue et elle subit les critiques de l'opposition, notamment Marine Le Pen qui se demande si la France est toujours une démocratie si on muselle les citoyens.
D'autres... obligé de la citer.
Bah oui. D'autres parlent de la liberté d'expression comme argument. Alors comment faire pour lutter contre les fake news et théories du complot sur internet? C'est ce dont on va parler tout de suite. Alors, oui. Gir, comment tu t'appelles toi?
Guillaume. C'est quoi ton nom toi là-bas?
Alors Guillaume qui était en train de penser...
Avec son micro qui te main libre.
Alors...
je suis mort.
Florent, donc Florent. Vous vouliez parler, vous voulez qu'on parle de ça?
Oui.
Parlons.
Parlons. Bah moi déjà, je trouve que les plateformes de contenu ont leur rôle à jouer, plus que les institutions politiques, que le CSA. Il y a un truc moi qui m'a chagriné, c'est le fait que YouTube...
Est-ce que ça t'a rendu chiffon?
Ça m'a rendu chafouin et chiffon.
Torchon, chiffon, carpette.
C'est le fait que YouTube ait développé des algorithmes justement qui favorisent les vidéos de théorie du complot. Parce que, parce qu'en fait, ce sont des vidéos qui retiennent le plus d'attention et YouTube, ça reste une entreprise qui veut gagner de l'argent.
Du temps de cerveau,
et voilà, comme dirait
Étienne Moujotte.
Étienne Moujotte,
voilà. Et voilà, donc l'algorithme était censé promouvoir des vidéos qui allaient retenir l'internaute plus longtemps sur YouTube. Et donc,
l'algorithme YouTube, il met plus de vidéos
de théorie du complot, justement. Enfin, en fait, à la base, c'est pas on va mettre en avant les théories du complot, mais on va mettre les vidéos qui vont
retenir le plus d'attention et celles les vidéos de théorie.
Et donc, tu vas par exemple te renseigner sur tu vas regarder une vidéo historique sur l'11 septembre.
Il va te mettre le billet de 20 dollars qui fait Oussama Ben Laden.
Non, mais ouais, non, mais c'est ça, le truc avec 4 millions de vues qui est absolument.
Et la vidéo de Marie Bigard qui avait fait une vidéo sur le 11 septembre en disant que c'était un complot. Oui, c'est pour ça que pendant un long moment, on l'a moins vu à la télé.
D'accord, je savais pas ça.
Voilà. Mais pardon, je t'ai coupé dans ton argumentaire.
Mais ouais, voilà, c'est ça. Moi, je pense que, encore une fois, les plateformes ont leur rôle à jouer, tout comme Google. Comme Facebook commence à le faire déjà.
Ouais, ils ont supprimé 130 000 comptes, je crois, qui diffusaient des fausses infos et théories du complot.
Ouais, et moi, j'ai vu récemment, c'est arrivé en France il n'y a pas longtemps, lorsque tu as une info qui est partagée par un ami ou une page... qui est un peu douteuse. Non, en fait, juste en dessous du lien, tu vas avoir
une inscription.
Un site internet qui va être mis en avant. C'était les décodeurs du monde pour ma part. Et en fait, c'était marqué avec le nom de la source. Je crois que c'était lagauchematué.fr, donc et c'était marqué La Gauche Matuée est-elle un site fiable? Et en fait, en dessous, c'était marqué possible fake news, etc. Et tu pouvais cliquer pour avoir un.
Excellent.
Ça, c'est bien.
C'est Facebook qui a fait ça.
Ouais.
Voilà, je le dis aux gens, quand tu voyais une info, bon, je m'adresse à ma grand-mère, qui partage beaucoup de publications, machin. vérifier.
Grand-mère Crosse.
C'est de côté de ma mère.
Ah.
Donc, je ne dirai pas son nom. Vérifiez vos infos avant de partager des trucs. Ne serait-ce que juste taper la phrase et une chance sur deux que vous voyez, ou alors utiliser les décodeurs du monde. Il y a ces décodex de l'IB, je crois.
Oui.
Il y en a plein, donc de tous ces sites de fact-checking. Vérifiez pour ne pas partager des fausses publications. Ou autre.
Et d'ailleurs, les
partagez rien, quoi, sinon.
Et d'ailleurs les décodeurs
vérifiez déjà.
Les décodeurs ont un moteur de recherche en fait, où il suffit de mettre le nom du site en question et en fait c'est marqué bah voilà, c'est fiable ou c'est pas fiable.
C'est ça.
Est-ce qu'on m'autorise une petite divergence ?
Oui.
Quelle est la dernière news qui vous a attrapé dans le genre fake news et vous avez cru que c'était vrai ?
Qui m'a attrapé ?
Bah, genre, tu t'es fait avoir quoi, par une fake news. En dehors de l'émission fake news, bien sûr.
Oui, l'émission fake news qu'on retrouve juste après.
Ça moi j'en ai une bonne, moi.
Ah, vas-y.
Ah ouais ?
Henri de Lesquen.
Ah oui, Henri Lesquen. Henri Lesquen, c'est mon héros. C'est mon héros. J'adore ce type, c'est mon héros.
Et ben, il y avait une news comme quoi c'était apparemment un fake qui avait été créé par je sais plus.
Lui, là ?
Ouais. En fait, apparemment, c'était un personnage qui était créé par des gens qui voulaient faire une blague plus raciste. Et en fait, sauf que c'était.
Ah, genre, il existerait pas vraiment.
Ouais, voilà.
Alors, si, en vrai, il y a des vidéos de lui. Il
oui,
avec,
mais je pense que c'était un acteur.
Il est avec Rivarol. Ouais.
Pour ceux qui savent pas qui c'est le directeur des programmes de Radio Courtoisie, qui est une radio d'extrême droite catholique de la région parisienne.
Et qui aime la musique nègre.
Oui.
Ou non, congoïde.
Congoïde.
Congoïde, ouais, voilà, c'est ça.
Il sent les épices. Il est trop fort, j'adore.
Ils sont partis, c'est le PNL.
Ah oui, c'est vrai. Ah oui, non, c'est vrai en plus. C'est mais il, même, il représente le club de l'horloge, qui est
parti,
une asso de plein
parti national libéral ou libre.
Je sais plus ce que ça veut dire. Qui, en tout cas, et le mec le
qui vise aussi que la famille aussi pour le coup. C'est ça. Aussi pour le coup.
Non, je me souviens quand j'ai découvert son site avec son programme détaillé, grand moment.
Parti national libéral.
Ouais, mais pour répondre à la question, non, j'ai pas d'idée de,
ouais.
de faux trucs. Il y a dû en avoir, j'ai dû me faire piéger parce que des fois tu ne sais pas et tu le vois et tu penses pas à regarder du premier abord, mais il n'y a pas de truc.
Moi j'ai vraiment honte, c'était une news il y a pas, un peu près récente, il y a quelques mois, d'un restaurant qui aurait ouvert à Tokyo qui servirait de la viande humaine, n'est-ce pas ? Et qui propose à des gens de vendre leur corps en avance, en fait, pour à peu près 30 000 dollars, tu vois, et de vendre leur corps s'ils ont un organisme assez sain. Et c'est-à-dire que quand ils meurent, la famille appelle et puis on vient récupérer le corps. Et comme le mec est consentant, bah, il est servi dans un restaurant. Tu
et
vois.
Ça, c'est fake news.
Et ça, c'est pas vrai. Mais en fait, c'était ça m'étonne tellement pas du Japon, tu vois, que j'y ai cru. Et il y avait tellement de sites qui ont relayé cet article que j'y ai cru. Et en me renseignant fort, mais j'ai dû y mettre quand même un peu de recherche. Et en fait, c'est juste une erreur de traduction d'un vieil article d'un site pour déconner espagnol. Et en fait, il y a eu une erreur de traduction. Et il y a plein de médias qui ont reposté ça en balle alors que tout est faux, quoi. Et je me suis bien fait avoir. Et j'ai eu honte.
D'accord. Guillaume, voilà. Est-ce que tu es d'accord avec Florence sur le fait que c'est Facebook, Google, YouTube qui doivent bosser sur ça ?
Je pense qu'ils doivent avoir leur part de responsabilité, mais étant donné que c'est uniquement des hébergeurs de contenu, s'ils veulent pas se mettre... Alors,
est-ce que maintenant, ce serait pas un peu plus que des hébergeurs
de contenu ? Non, il faut faire la part des choses. Si, pour eux, ils restent uniquement des hébergeurs de contenu, effectivement, ils n'ont pas une énorme responsabilité à avoir. S'ils se mettent à développer, à produire
du contenu
original, effectivement, je pense que là, ils devraient avoir une plus grosse part de responsabilité et effectivement, les institutions ne devraient pas forcément... ou alors pas les institutions qu'on connaît, les institutions classiques,
mais
s'insérer là-dedans. Je pense qu'il faudrait quelque chose de nouveau en fait.
Mais est-ce que c'est possible?
C'est pas eux de se positionner en tant que producteurs de contenu ou pas. Ça fait longtemps qu'ils filtrent le contenu et que c'est pas juste des vitrines pour du contenu. Google et Facebook.
Je comprends pas ce que tu dis.
Bah, par exemple.
Bah, Facebook, si.
Tu peux pas avoir Facebook. T'as pas un TT sur Facebook.
Oui, c'est vrai.
Non, tu peux pas mettre un TT.
Oui, mais censurer l'origine du monde.
Facebook, c'est une plateforme vide qui, avec des algorithmes, etc., qui permet à des gens de se retrouver et de publier des trucs. Hein, ma grand-mère s'est cassé le bras
hier. Au commencement, ça. Mais cité aussi puissante qu'un... Maintenant que c'est une entreprise aussi puissante qu'un État.
Ça a beaucoup évolué et aujourd'hui, c'est devenu ce que c'est devenu. Les gens
partagent
beaucoup d'articles.
Il y a du financement.
Oui, mais c'est Brut qui propose du contenu. C'est Combini News qui propose du contenu
bien sûr.
Et qui héberge tout ça. Tous ces studios de production, qui ne pètent pas tout. C'est Vice qui propose du contenu.
Tu vas faire la liste de tous les...
Exactement, je les cherche.
Non.
C'est Munchies qui propose du contenu.
C'est le troisième lieu, bordel.
Ce n'est pas Facebook qui produit
Du truc. C'est pas Netflix.
C'est une bonne base. Ouais. C'est la base du truc.
Mais du coup, est-ce que vous pensez qu'il y a moyen est-ce qu'il y a une possibilité de stopper les fake news ou c'est impossible ?
Moi, je pense que oui, parce que quand on voit le buzz que ça a fait dernièrement, Facebook qui a censuré l'origine du monde de Gustave Courbet, tout ça, parce qu'on ne faisait pas la différence entre un tableau et une photo
d'une chatte.
je pense que c'est d'autant plus simple de filtrer un minimum les sources d'informations pour éviter d'arriver à une élection de Donald Trump.
Ouais.
Voilà quoi. Et d'ailleurs, par rapport à ça, Je sais pas si vous avez vu, mais en fait, Facebook a favorisé les publicités de Trump par rapport à Clinton.
Oui, c'est
parce qu'elles étaient plus putaclic que Clinton.
Qu'elles attiraient plus de...
C'est exactement
plus
ce que je disais, en fait. C'est que, est-ce qu'on peut encore dire que c'est juste du contenu brut sur Facebook? C'est quand même aiguillé à fond, je trouve, avec les pubs.
C'est aiguillé, mais ils ne produisent pas de contenu.
Bien sûr, ouais.
Donc
mais
voilà,
je pense que
c'est ça que je veux dire.
C'est tellement
marrant,
c'est tellement fort que c'est tout comme.
Ça reste une plateforme de contenu. Ça reste une plateforme pour des gens qui postent leurs trucs. Effectivement, il y a des algorithmes qui font que. Il y a des aspects financiers, économiques qui font que. Mais ils doivent avoir une part de responsabilité, mais pas aussi grande que si, effectivement, ils étaient producteurs de contenu. Et à ce moment-là, ils devraient porter beaucoup plus d'attention à ce qui est proposé par eux et par les autres.
Est-ce que j'ai vu, il y a beaucoup de gens sur Twitter qui se plaignent de la loi. Bon, la loi n'est pas faite, mais s'il faut faire une loi, il faut bien la préparer, parce qu'Internet, c'est un pan qui est différent des autres. Est-ce qu'il ne faudrait pas, je sais qu'il y a beaucoup d'écoles qui le font, donner des cours aux enfants pour leur apprendre à vérifier des informations, quelle site est fiable, essayer d'éduquer les gens à la lecture des médias, à l'interprétation.
Quelle site est fiable, non. Parce que ça veut dire qu'il faut éduquer, faut dire aux enfants qu'il faut mieux aller sur tel site que tel site.
Non, mais juste savoir vérifier que ça, c'est pas un vrai.
Apprendre à vérifier une info,
plutôt
que d'apprendre à chercher un livre au CDI, je pense que c'est pertinent.
Oui, voilà.
Pour les jeunes de nos jours.
Voilà, je pense que plutôt que passer. Juste
non, mais chercher... en plus, on se souvient très bien de ces heures que t'as en 6ème où tu vas avec le documentaliste, il t'apprend à chercher sur le logiciel du CDI comment trouver un compte. Je pense que pour un gamin qui est né en 2020, c'est plus pertinent de lui apprendre
à vérifier
l'information internet que de chercher un livre au CDI, je pense.
Voilà, et apprendre comment peut-être vivre sur les réseaux sociaux ou vivre sur internet. Je pense que
tu fais référence au bon article du Monde qui est paru ce week-end sur l'éducation aux médias.
Oui, que j'ai partagé. Ouais.
Absolument pas, je ne sais pas lire.
Je ne connais pas. Le Monde,
je ne sais pas.
Non, mais j'avais vu un reportage sur une école où ils font ça dès le plus jeune âge, des enfants en CE2 ou CE1, je crois qu'ils font ça. En fait, au lieu d'aller quand ils vont à la bibliothèque ou au CDI, au lieu de leur dire bah voilà, chercher tel livre machin, ils
disent
bah voilà.
Il leur dit mets un like sur ma nouvelle pub vidéo.
Voilà, ils leur donnent des infos et ils les apprennent à vérifier si c'est vrai ou pas. Bon,
ça tue.
Faire un peu de fact-checking et savoir se comporter sur les réseaux sociaux.
Ça tue.
Sur les réseaux Pouloulou. Voilà. Et d'autres choses à dire sur ce sujet?
Non.
Non. On conclut là-dessus?
Le mec, non.
Le mec refuse de parler. Eh ben écoutez, on va s'arrêter là-dessus.
Il y avait pas un truc qu'on devait pas débattre sur si ça devait être interdit aux enfants, les réseaux sociaux?
C'était un sujet à la fois, Gire. Ce sera peut-être le sujet d'une prochaine émission.
D'accord.
Merci Guillaume.
Ah, avec plaisir.
Merci Florent.
Merci
Gire.
À vous.
On se retrouve là juste
tous.
Après une petite pause musicale avant Fake News. Donc oui. qu'on boive un coup.
Oui, si tu me mets Team Dub, je bouffe mon micro.
Il l'a fait.
Je vous jure.
Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une Mediares.
Indochine.
Ah
non, certainement pas. On se dit à la semaine prochaine pour une Mediares. A tout de suite pour Fake News. Et vérifiez si les infos que vous partagez sont vraies ou pas, parce que c'est pénible. Allez, bisous.